L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 14 février 1981. Il est à peu près 15h lorsqu'un paquebot arrive dans le port de la ville d'Ostende. À son bord, un homme regarde avec curiosité et attention le littoral qui se met à apparaître devant lui. En ce milieu d'hiver maussade, le ciel et les barres d'immeubles du long de la Reine des Plages se confondent. Et si cet homme a l'air si songeur, c'est qu'il est assez tourmenté. Il quitte une vie de paillettes outre-Atlantique. Vie dont le revers de la médaille l'a mené à une dépression tenace. Le tout saupoudré de problèmes d'argent et d'addiction. Cet homme n'est autre que Marvin Gaye, le chanteur américain à la renommée internationale, surnommé le prince de la soul. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener l'un des chanteurs américains les plus célèbres de sa génération à venir trouver refuge dans cette ville côtière de la mer du Nord, Seulement 3 ans avant de connaître une mort tragique. Retour sur l'escapade belge méconnue de Marvin Gaye, les raisons qui l'y ont poussé et le terrible destin qui l'attend. Il est 15h et c'est l'heure H de mon histoire. Pour beaucoup, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de l'amour. Mais pour Marvin Gaye, ce samedi 14 février 81 a une toute autre saveur. Ce jour a un goût de solitude, d'introspection. Et pour cause, le chanteur n'est pas accompagné. Sur le pont du bateau qui le mène de Londres à Ostende, il se tient seul, lové dans son long manteau noir, le sac sur l'épaule et les yeux cachés derrière des lunettes d'aviateur au verre fumé. On devine son regard plongé dans l'eau trouble de la mer du Nord. Ce long trajet lui a laissé le temps de réfléchir, de faire le point, de faire le bilan de sa vie. En quittant une mégalopole aussi importante que Londres pour une ville belge de 130 000 habitants, le chanteur espère avant tout du changement. Il souhaite laisser derrière lui tous ses problèmes. Ce n'est pas vraiment qu'il les fuit, non, mais il le sait. Il ne doit pas pouvoir se laisser le choix car la tentation est toujours trop grande. Il doit s'éloigner de ses vices qui lui pourrissent la vie et le dépriment depuis de nombreuses années déjà. Alors que le paquebot s'apprête à entrer dans le port d'Ostende, tout s'éclaircit. Oh, je ne parle évidemment pas de la météo capricieuse, non, mais bien de ces idées noires, de ces doutes et de ces innombrables questionnements qui lui embrument l'esprit. À vrai dire, à ce moment-là, et aussi bizarre que cela puisse paraître, Ostende semble être la seule réponse à toutes ces questions. Mais avant de vous expliquer ce que la star américaine fait en Belgique, laissez-moi vous donner les potentielles raisons qui ont pu l'y amener. Marvin Gaye est l'un des chanteurs les plus célèbres, les plus talentueux et les plus reconnus de sa génération. Il fait partie des rares personnes qui atteignent le statut de légende vivante. Depuis ses débuts dans la musique dans les années 1960, le chanteur ne cesse de gravir les échelons pour devenir une figure majeure, si ce n'est la figure de la musique soul et populaire. Mais c'est en signant avec le célèbre label Motown Records que la carrière de Marvin Gaye s'envole. Pour ceux qui ne sauraient pas, ce label foisonnant a signé des artistes qui ont marqué à tout jamais l'histoire de la musique. Des artistes comme Michael Jackson, The Supremes, Diana Ross ou encore Stevie Wonder. Pour définir le style Motown, peut-être que le plus simple est de vous donner la stratégie du label. Elle se résume en une phrase. Toucher à la fois un public noir et un public blanc grâce à des chansons enjouées et mélodieuses faites par des artistes afro-américains. Très vite, après ses débuts au sein de la Motown, le succès et la popularité de Marvin Gaye sont tels qu'il devient l'un des chanteurs vedettes du label. En plus de ça, le fait qu'il soit marié à la sœur du fondateur du label fait de lui le protégé de l'influent producteur. Si la Motown est une usine à tubes, alors Marvin Gaye est sûrement l'un de ses meilleurs ouvriers. Je ne prends pas trop de risques en supposant que vous connaissiez au moins un des tubes du chanteur. Si je vous dis « I heard it through the grapevine »,« What's going on » ou « Let's get it on », bah vous me direz peut-être que vous êtes plutôt « sexual healing ». Dans ce cas-là, restez avec moi puisque je reviendrai plus tard sur la genèse de ce morceau créé et composé en Belgique. Dans tous les cas, que ce soit en groupe, en duo ou en solo, la voix inoubliable du chanteur, doublée d'une aura et d'un charme fou, font de lui l'une des coqueluches de la musique américaine. Ce sont tous ces éléments qui lui valent le surnom de « prince de la Motown » et même de « prince de la soul ». La vie du chanteur américain est loin d'être un long fleuve tranquille. Avant même de connaître ses récents tourments, Marvin Gaye doit faire face à des traumatismes qui le hantent. Bien sûr, commençons par le commencement, la relation compliquée avec son père, Marvin Gaye Senior. Quand il y réfléchit bien, il se dit que finalement, c'est grâce à lui qu'il a plongé la tête la première dans la musique. Elle est comme un refuge pour le jeune Marvin qui cherche à éviter son paternel, car le père de Marvin Gaye est un homme pour le moins spécial. Alors vous allez croire que je digresse, mais Marvin Gaye Senior est l'un des personnages clés de notre récit du jour. Alors écoutez bien ce que je vais vous raconter. Le père du chanteur est pasteur, mais il n'est pas pasteur au sein de n'importe quelle église. Il fait partie d'une congrégation religieuse nommée la Maison de Dieu. Non, soyons plus précis et disons plutôt que c'est une secte très stricte, à la morale étroite et autoritaire qui emprunte à la fois au judaïsme, à l'évangélisme et au pentecôtisme. En plus de son travail de prédicateur, son père affirme avoir des dons de guérisseur. C'est donc un personnage ambigu qui, en plus d'être rigide et sévère, est extrêmement violent. Comme chacun de ses 6 frères et sœurs, Marvin Gaye a été battu toute son enfance par son père. À la moindre contradiction, au moindre écart de conduite ou à la moindre revendication, Marvin Gaye Senior envoie son fils l'attendre patiemment dans sa chambre pour recevoir des coups. Marvin Gaye dira plus tard que ce n'était pas tant la douleur physique qui l'a marqué à vie, mais davantage la torture psychologique que son père exerce sur lui. Et, comme je le disais, la musique est un remède pour Marvin. C'est une respiration dans son quotidien violent. Comme pour beaucoup de chanteurs et de chanteuses de l'époque, l'apprentissage de la musique se fait d'abord à l'église. Il y apprend le piano de manière autodidacte, mais aussi la batterie, qui devient son instrument de prédilection. Le jeune Marvin se révèle être aussi particulièrement doué pour le chant qu'il pratique régulièrement lors des gospels organisés au sein de sa paroisse. Et lorsque Marvin se met sérieusement à envisager un futur dans le monde de la musique soul et R&B, bien évidemment, son père désapprouve. D'abord, si la musique ne fait pas les louanges du Seigneur, alors il la considère impure. Et puis, il est terriblement jaloux du talent de son fils, mais aussi et surtout de la lumière qu'il accapare en concentrant tous les regards sur lui. Au-delà des traumatismes d'une enfance violente passée à subir les coups de son père, Marvin Gaye est profondément atteint par un événement dont il ne s'est jamais réellement remis. Cet événement, c'est la mort de son amie Tammy Terrell. Elle n'est pas juste son amie. Tammy est une star montante du label Motown, avec laquelle le chanteur décide de former un duo musical. Ils sortent ensemble plusieurs chansons qui se hissent en haut des classements, dont le tube « Ain't No Mountain High Enough ». Malheureusement, pendant un concert, la chanteuse s'effondre sur scène dans les bras de Marvin Gaye. Elle est tout de suite amenée à l'hôpital. On lui diagnostique une tumeur maligne du cerveau qui lui sera fatale. Elle meurt à seulement 24 ans, laissant un grand vide dans le cœur du chanteur. Jamais. Jamais Marvin Gaye ne pourra effacer cette image macabre de son esprit. La mort de Tammy Terrell le plonge dans une profonde dépression dont il ne parvient pas à guérir malgré le temps. À vrai dire, ce ne sont pas son père ni le deuil de Tammy Terrell qui l'ont poussé à embarquer à bord du paquebot à destination d'Ostende. Le prince de la Soul doit aussi faire face à des problèmes récents qui ne sont pas loin d'avoir sa peau. Depuis de nombreuses années déjà, le chanteur est dans l'impasse. Tout d'abord, une impasse amoureuse. Sa première femme, la sœur du producteur de la Motown, demande le divorce. Le chanteur est peu fidèle et il mène même une double vie avec une jeune femme de 17 ans, sa cadette. Ce n'est pas tant le divorce qui est un coup de massue pour Marvin Gaye, mais plutôt son coût financier qui augmente encore le montant de ses dettes. Au bout de 3 ans, le divorce est enfin prononcé. Il peut alors vivre pleinement son histoire d'amour avec la jeune femme, avec laquelle il a d'ailleurs une petite fille. Il l'épouse aussitôt, mais là encore, très rapidement. Sa nouvelle compagne demande le divorce. En 1979, Marvin Gaye est doublement divorcé, seul et le cœur brisé. Le chanteur noie alors sa tristesse dans l'alcool et la drogue, pour lesquels il développe une grande addiction qui ne le quittera jamais vraiment. Et si 2 séparations ne suffisaient pas, une 3e s'ajoute au lot de déceptions du chanteur. Cette fois-ci, c'est avec la Motown qu'il divorce, en 1981. Son label avait publié des enregistrements du chanteur sans son accord, sous un titre qu'il n'avait pas approuvé non plus. La confiance étant définitivement brisée, la rupture était inévitable. Bien sûr, un chanteur tel que Marvin Gaye est très vite courtisé par de nombreuses maisons de disques. Il signe rapidement avec un nouveau label, à qui il promet un nouvel album. Ouais, seulement voilà. Il faut bien le créer, ce nouvel album. Et depuis quelques années, il en est totalement incapable. Alors, si tout s'éclaircit pour Marvin Gaye sur le pont du paquebot qui rentre dans le port d'Ostende, c'est parce qu'il est temps d'un renouveau. Et c'est peut-être dans l'exil qu'il va le trouver. C'est en tout cas ce qu'il espère lorsqu'il foule le sol belge ce samedi 14 février 1981.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du destin tragique du prince de la Soul, Marvin Gaye. Alors que le chanteur connaît une période particulièrement sombre, il trouve refuge dans une ville belge qui lui est encore inconnue, Ostende. La retraite ostendaise de Marvin Gaye lui suffira-t-elle pour remonter la pente? Ou est-ce une parenthèse enchantée sur le chemin de la descente aux enfers? Restez avec moi. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors que les marins jettent l'ancre pour amarrer le bateau, Marvin Gaye le sait. Il n'y a plus de retour en arrière possible. S'il est venu ici, à Ostende, c'est pour laisser derrière lui ses vieux démons, s'éloigner d'une vie de vice qui le détruit à petit feu. En fait, pour être tout à fait honnête, il n'avait plus vraiment d'autre choix. Le chanteur venait tout juste de saboter sa tournée en Angleterre. Ses problèmes de drogue et d'alcool l'avaient empêché d'honorer ses engagements. Et lorsqu'il arrive en retard et trop défoncé à une soirée dédiée à la princesse Margaret, la sœur cadette d'Elisabeth II, c'est la goutte de trop. Le manager du chanteur lui annule son billet d'avion retour pour les États-Unis. Avec ses problèmes d'argent, Marvin Gaye est dans l'incapacité totale de se payer lui-même un nouveau billet. Alors, à ce stade de notre histoire, vous vous demandez sûrement pourquoi Ostende ? C'est bien simple. Si Marvin Gaye décide de s'installer ici, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y est expressément invité. C'est Freddy Cousart qui l'a convié. Freddy, un hôtelier ostendais qui est passionné de musique soul. Il est DJ à ses heures perdues, mais aussi promoteur de concerts. C'est l'un des premiers à importer la musique soul et R&B en Europe. Il va souvent à Londres pour traîner chez les disquaires et dénicher des vinyles introuvables en Belgique. Mais surtout, il écume tous les nightclubs et salles de concert où se rendent ses chanteurs et chanteuses préférés. À force, il se crée un solide réseau. Et un jour, le patron d'un club londonien l'a appelé pour lui dire que Marvin Gaye allait donner un concert le soir de Noël. Ni une ni deux. Il avait sauté sur l'occasion pour venir le rencontrer. Lorsqu'il se rend compte que son idole est complètement désœuvrée, sans le sou et à la rue, il lui propose de venir passer un peu de temps chez lui, à Ostende. Marvin Gaye saisit cette opportunité. Il accepte immédiatement. C'est ainsi que commence le séjour ostendais de la superstar américaine. À son arrivée en Belgique, il est supposé y rester 2 semaines. Comme promis, Freddy Cousart propose au chanteur un havre de paix qui l'éloigne de toute tentation. Il lui propose de l'héberger dans un appartement d'un immeuble qui lui appartient, numéro 77 de la Koningsstraat. Le Mercury, l'hôtel de Freddy, est situé à un jet de pierre de l'appartement dans lequel loge Marvin Gaye. Alors, tous les jours, le chanteur vient y trouver de la compagnie lors de joyeux repas. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, l'un des cuisiniers du Mercury n'est autre qu'un certain Arnaud Aitchens. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien le chanteur Arnaud qui sert chaque jour ses repas à Marvin Gaye. Hormis ses longues balades sur la jetée, le prince de la soul court tous les jours sur la plage. Il fait du basket et de la boxe au centre sportif de la commune. Freddy et sa femme sont aux petits soins pour le chanteur qui se remet petit à petit sur pied. En d'autres termes, Marvin Gaye s'acclimate très vite à la ville. À son propos, il dira d'ailleurs ceci. Ostende, c'est une belle petite ville dont le tempo bat un temps plus lentement que Paris, Londres, New York ou Los Angeles. Peut-être même 2 temps plus lentement. Et à vrai dire, c'est tout ce dont le chanteur a besoin au début des années 80. L'objectif de cette retraite ostendaise est bien clair, se ressourcer. Et rien de tel pour se remettre d'aplomb que de vivre un quotidien paisible, sain, à l'égard de tous, et notamment des dealers et des rapaces du monde de la musique qui veulent se servir de lui. Pour Marvin Gaye, il était urgent de remédier à ses addictions et à sa dépression. Son remède, ce sera donc la Belgique, du moins pour le moment. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'à l'époque, la présence de Marvin Gaye dans les rues d'Ostende passe presque inaperçue. Pourtant, il est déjà mondialement connu. Sa carrière n'a cessé de s'accélérer depuis les premiers succès des années 1960. Mais le chanteur passe tellement incognito que son exil ostendais n'a pas été beaucoup documenté. Et pour cause. Marvin Gaye se font très bien dans la masse. Il va à la messe de la petite église de Maria Kerk le dimanche matin. Il joue aux fléchettes dans des estaminets sur le bord de la plage avant de rentrer dans son petit studio avec vue sur mer. Non, finalement, petit à petit, les 2 semaines de vacances se transforment en des mois et des mois de résidence dans la ville belge. Marvin Gaye résume d'ailleurs très bien son expérience belge. Il dit ceci. « Je suis un orphelin maintenant, et Ostende est mon orphelinat, dans la mesure où là, maintenant, il y a des endroits où je préférerais être, mais j'ai sans doute besoin d'être ici, et je crois que c'est pour cela que je reste. » Et il n'a pas tort. Grâce à son prompt rétablissement, le chanteur peut renouer avec son premier amour et ce qu'il considère comme la chose la plus importante de sa vie, la musique. D'un certain temps que Marvin Gaye consacre à sa guérison, le patron de sa nouvelle maison de disques décide de venir lui rendre visite à Ostende. Les précédents déboires du chanteur ne sont un secret pour personne. Ainsi, lorsque le big boss du label débarque dans le petit appartement de Marvin, il est rassuré. Marvin Gaye est clean. Il a retrouvé son sens des responsabilités, alors la production de son nouveau disque peut démarrer, sans attendre. Le chanteur appelle ses musiciens qui quittent aussitôt les États-Unis pour venir le rejoindre en Belgique. Tous sont logés par Freddy et sa femme qui sont comme les anges gardiens de Marvin Gaye. Pour se remettre en selle, il donne quelques concerts au casino d'Ostende, mais il ne remplit qu'à moitié la salle. Il faut dire qu'à l'époque en Belgique, la mode est davantage à la variété française, mais passons. Sa ferveur et sa motivation retrouvées, le nouvel album du chanteur commence à se dessiner. Ce sera son 16e et pas le plus simple, vous l'imaginez. Son dernier album sorti 3 ans plus tôt, il l'avait écrit et composé dans la douleur. Le chanteur était déjà tellement empêtré dans des soucis financiers liés à son divorce qu'il avait été convenu que les recettes de l'album et l'avance sur salaire seraient reversées à sa future ex-femme. Ce nouvel album, c'est l'album de la seconde chance. C'est un album qui ne lui appartient qu'à lui, produit aux côtés d'un tout nouveau label avec qui la relation est encore au beau fixe. C'est une page blanche pour le chanteur. Il a une toute nouvelle histoire à écrire. À partir de la visite du patron du label, Marvin Gaye se remet à composer. Une nouvelle routine s'installe alors. C'est celle des allers-retours quotidiens au studio d'enregistrement. C'était pas Ostende, mais dans la petite commune d'Ohain, située dans le Brabant wallon, que Marvin Gaye enregistre son nouvel album. Cet album, que Marvin Gaye concocte en Belgique, il s'appelle Midnight Love. Oh, peut-être que son nom ne vous dit rien. Pourtant, il contient le plus grand tube de sa carrière, qui marquera à jamais l'histoire de la musique et de la soul. Ce tube, c'est le fameux Sexual Healing, une chanson qui restera pour toujours le plus grand succès commercial du chanteur. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cet album sera malheureusement le dernier. En tout et pour tout, à la place des 2 semaines initialement prévues, Marvin Gaye reste 1 an et demi en Belgique. Avec l'avance de son album, il achète même à crédit une maison à Moore, en Flandre occidentale. Malheureusement, malgré le soutien sans faille de Freddy Couzart et de sa femme, vers la fin de son séjour, les choses se compliquent. D'abord, la maison de disques commence à lui mettre la pression pour qu'il finisse son album. Ensuite, le visa de Marvin Gaye arrive à expiration. Le disque n'est pas encore fini et le chanteur n'est pas très rassuré à l'idée de se faire expulser du jour au lendemain. La fin de la retraite ostendaise est peu glorieuse. Beaucoup disent que Freddy et Marvin se sont disputés et qu'ils sont en froid. De toute façon, maintenant la star américaine vit dans la maison de Moore. Du jour au lendemain, le chanteur disparaît. Il quitte sans crier gare la Belgique, direction Munich, où il enregistre une partie de son album. Il laisse derrière lui toutes les personnes qui l'ont accueilli les bras ouverts. Freddy, bien sûr, mais aussi de nombreuses autres personnes qui étaient prêtes à tout pour aider la star. En dépit de la fin amère du séjour du chanteur en Belgique, cette parenthèse ostendaise aura tenu toutes ses promesses. Marvin Gaye est un nouvel homme, plus sage, plus raisonnable. Il gère désormais sa consommation de drogue et, grâce au nouvel album, il a même pu se refaire une santé financière. Pour lui qui est si croyant, c'est comme une rédemption. Malheureusement, celle-ci sera de courte durée. Son destin tragique ne va pas tarder à la rattraper.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, direction les États-Unis, plus précisément Los Angeles, où notre histoire va bientôt se terminer. Après un détour de près d'un an et demi à Ostende, il est temps pour Marvin Gaye de retourner dans son pays d'origine. Une santé retrouvée, des finances stabilisées et un album terminé en poche, le chanteur superstar est prêt à faire son grand comeback. Mais que va lui réserver son retour en Amérique? En a-t-il vraiment fini avec ses vieux démons? Patience, patience. Le dénouement est proche. Marvin Gaye retourne donc aux États-Unis à la fin de l'été 1982. Quelques mois plus tard, en octobre, son dernier album, Midnight Love, sort enfin dans les bacs. Cet album, si vous avez bien suivi, vous le savez, il a été essentiellement composé en Belgique, même si son enregistrement a également eu lieu en Allemagne et aux États-Unis. À sa sortie, ce disque est un immense succès pour Marvin Gaye. Ce succès, il le doit en très grande partie au single de l'album, Sexual Healing, qui devient instantanément un classique de la musique soul et R&B. D'ailleurs, ce tube lui fait remporter 2 Grammy Awards, soit les plus hautes récompenses possibles dans l'industrie musicale américaine et même mondiale. En montant sur scène pour récupérer son trophée en forme de gramophone, le chanteur envoie des baisers au public qu'il applaudit vigoureusement. Dans son discours de remerciement, il dit avoir attendu plus de 27 ans avant de recevoir une récompense pour son travail. Il termine en promettant qu'il va essayer de donner encore plus au public. La sortie de son dernier album tient toutes ses promesses. Le chanteur semble avoir retrouvé son équilibre, sa motivation et même sa gloire d'antan. Il lui permet de faire taire les mauvaises langues qu'il croyait terminées. Malheureusement, moins de 2 ans après cette reconnaissance publique de son travail, le chanteur sera emporté par une terrible tragédie. Malgré son sevrage lors de son séjour européen, Marvin Gaye retombe dans la drogue. Et cette rechute aura un effet désastreux sur le chanteur, alors âgé de 42 ans. La dépression le frappe à nouveau. Le chanteur reprend du poids. Il redevient dépendant à la cocaïne qui le rend complètement paranoïaque. Si Marvin Gaye replonge aussi rapidement et aussi simplement dans la drogue, c'est parce qu'il se remet à nouveau à voyager à travers les États-Unis. La tournée de son dernier album en 1983, le Sexual Healing Tour, lui donne un rythme éreintant. Alors, les vieilles habitudes réapparaissent, naturellement. Et puis, les crises de paranoïa se multiplient, s'intensifient jusqu'à devenir une partie intégrante de son quotidien. Sur scène, il va même jusqu'à se produire avec un gilet pare-balles, car il est persuadé que quelqu'un veut le tuer. Désormais, il est toujours accompagné de gardes du corps. Le biographe du chanteur dira même que pendant cette période, il était constamment accompagné d'un prêtre et d'un dealer de drogue. Au fur et à mesure qu'avance sa tournée, l'état du chanteur ne fait qu'empirer. Sa paranoïa s'étend à ses proches, et notamment à sa mère. Marvin Gaye a tellement peur pour sa propre vie qu'il se met à avoir peur que quelqu'un s'en prenne à sa famille. Pour y remédier, il a une idée. Il achète deux armes à feu. La première, il la garde. La seconde, en revanche, il la donne à sa mère pour qu'elle puisse être elle aussi en mesure de se protéger si un danger venait à se présenter. À la fin du dernier concert de sa tournée, le 12 juin 1983, à Cincinnati Gardens, dans l'Ohio, Marvin Gaye n'est plus que l'ombre de lui-même. Son nez est tellement abîmé par les quantités astronomiques de cocaïne sniffée quotidiennement qu'il se met à avoir des problèmes respiratoires. Sa mémoire est de plus en plus défaillante. Il a du mal à se rappeler de ses propres paroles. Il est ainsi obligé de redécouvrir son œuvre et de réapprendre ce qu'il a lui-même créé. Une fois de plus, le chanteur touche bel et bien le fond. Alors il décide de prendre une décision radicale. Une décision qui lui sera malheureusement fatale. Pour remédier à ses angoisses et à ses addictions qui le bouffent de l'intérieur, Marvin a une dernière idée. Cette fois, il ne repartira pas en Europe, non. Il décide de trouver refuge dans le dernier endroit dans lequel il se sent en sécurité. Cet endroit, ce n'est autre que le domicile familial, ou plutôt la demeure qu'il a offerte à sa mère. Il emménage donc la maison située à Los Angeles, dans la rue assez centrale de South Gramercy Place, à seulement quelques kilomètres de Beverly Hills. C'est au numéro 2101 que se trouve la maison de la famille Gaye. À l'époque, elle est occupée par les deux sœurs du chanteur et sa mère, qui est alors en convalescence suite à une opération chirurgicale. Les retrouvailles familiales ne sont pas très joyeuses. Marvin est en peignoir toute la journée. Il ne sort que très peu de la maison et même carrément de sa chambre, dans laquelle il passe le plus clair de son temps dans la pénombre. Ses journées sont rythmées par la consommation de drogue, alternée de prières avec sa mère. Pourtant, le chanteur devrait être remotivé par le succès de son dernier album. Et puis, il y a aussi les obligations vis-à-vis de son label. Son contrat prévoit qu'il sorte un album par an. Et on en est loin, très loin. Rien n'y fait pour le chanteur, qui est alors complètement amorphe et léthargique. Pour ne rien arranger, Marvin est rattrapé par des problèmes qu'il pensait avoir réglés. Ces problèmes, vous l'aurez compris, ils sont d'ordre financier. Ces deux mariages soldés en divorce lui coûtent cher en pension alimentaire. Il doit encore des centaines de milliers de dollars à ses ex-femmes. Et puis, le fisc américain n'a pas dit son dernier mot. Le chanteur est loin d'avoir soldé ses dettes. En fait, c'est comme si la parenthèse européenne paisible n'était pas arrivée. Oh, bien sûr, son long séjour à Ostende lui a permis de se stabiliser, mais aussitôt retourné aux États-Unis, c'est comme s'il était remonté 3 ans en arrière, quand il était alors au plus bas. En 1983, sa dépression est tellement importante qu'il en vient à songer au suicide. Pendant qu'il habite la maison familiale, il passe même à l'acte par 2 fois. La première fois que Marvin Gaye tente de se suicider, il saute d'une voiture en marche. Pour la seconde tentative, il menace de se tirer une balle dans le crâne avec son revolver comme un énième appel à l'aide. Mais là encore, sa tentative est infructueuse. Ses amis tentent de le raisonner avant d'employer la manière forte et de le désarmer pour éviter tout drame. « Vous l'aurez donc compris, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans la maison de South Gramercy Place. La tension pesante est palpable. D'autant plus que Marvin Gaye Sr., le père du chanteur, est de retour après avoir vécu un temps à Washington. Si vous vous rappelez du début de notre histoire, Marvin Gaye et son père ont une très, très mauvaise relation. Le père est assez déséquilibré. Il est jaloux de ce fils qu'il a du mal à aimer tant il l'envie. Il le battait depuis sa tendre enfance et accompagnait ce mauvais traitement physique par de la torture psychologique. Les retrouvailles entre le père et le fils s'annoncent salées. Ils cohabitent tant bien que mal, même si les disputes se multiplient et s'aggravent. Après le retour de Marvin Gaye Sr., l'air devient assez vite irrespirable, si bien que les deux sœurs du chanteur, qui habitent également la maison, décident de partir. Puis, c'est au tour de la nouvelle petite amie du chanteur de fuir, ce qui ressemble de plus en plus à une maison de fous. La petite amie de Marvin est alors enceinte. Elle s'était installée dans la maison au début de l'année 1984. La cohabitation est rapidement écourtée au bout d'à peine quelques semaines. Il faut dire que le chanteur n'est pas en reste en ce qui concerne les violences conjugales. Et finalement, c'est bien ça le problème. La violence est partout dans cette maison. Le père est alcoolique. Le fils, lui, est toxicomane. Et tous deux se détestent ouvertement. Comment la cohabitation pourrait-elle bien se finir Alors que la demeure familiale se vide petit à petit, on ne peut s'empêcher de se dire que le pire est à venir. Et c'est justement le 1er avril 1984, la veille du 45e anniversaire de Marvin Gaye, que le pire arrive. Peu après midi, Marvin Gaye Sr. se met à la recherche d'un papier administratif concernant la maison de Washington, qu'il a vendue en douce. Agacé de ne pas trouver ce qu'il cherche, il se met à râler et à s'en prendre verbalement à sa femme, la mère de Marvin. De son côté, le chanteur en a plus que marre des humeurs de son père et de cette violence qu'il impose à toutes et tous. Alors Marvin Gaye décide de tenir tête à son paternel et de lui répondre qu'il n'a qu'à chercher par lui-même son maudit papier. Sans surprise, son père ne l'écoute pas et il s'en prend cette fois physiquement à sa femme en la bousculant. Le chanteur est hors de lui. Il prend alors la défense de sa mère. La dispute avec son père devient une violente bagarre. Et ce jour-là, l'altercation va déraper. Le père de Marvin va aller chercher l'arme que son fils lui a offerte pour se défendre. Il se saisit de son calibre 38 Smith & Wesson et le pointe sur son fils. Il lui tire à deux reprises dans l'épaule avant de tirer un troisième coup de revolver fatal en direction de sa poitrine. Marvin Gaye est à l'agonie. Sa mère s'enfuit de la maison en hurlant tandis que le père va tranquillement s'installer sur le porche de la maison. Il n'est que midi passé alors que les trois coups de feu qui viennent de retentir ne passent pas inaperçus. Alerté par ce son reconnaissable entre mille, le frère de Marvin Gaye, qui habite le voisinage, se précipite à l'intérieur de la maison. Il dévale les escaliers et trouve son frère entre la vie et la mort. Quand il le sait, le chanteur est en train de vivre ses derniers instants. Marvin Gaye meurt quelques heures plus tard, la veille de son 45e anniversaire, abattu par son père. À la suite de cet événement, différentes versions se mettent à circuler. Certaines et certains disent que de toute façon, le chanteur voulait mourir et qu'il est très probable qu'il ait poussé à bout son père pour qu'il commette le pire à sa place. L'une des sœurs de Marvin Gaye livre une toute autre histoire. Elle raconte qu'en réalité, le père avait trouvé sa femme et son fils dans le même lit en train de lire la Bible et qu'il avait mal interprété la scène. En réalité, peu importe. Le mal est fait, comme on dit. Et aucune de ces versions de la mort du chanteur ne pourra ramener le prince de la soul à la vie. L'issue tragique de cette relation père-fils était presque inévitable, tant elle était placée sous le signe de la haine et de la violence depuis la naissance de Marvin Gaye. D'ailleurs, dans sa célèbre chanson « What's Going On », le chanteur s'adresse directement à son père en ces mots. « Père, père, nous n'avons pas besoin de cette escalade de violence. » Dès lors, les mauvais rapports qu'entretenait le chanteur avec son père étaient comme une cocotte minute prête à exploser. Donc, bien sûr, si on peut tenter d'expliquer, de comprendre a posteriori tout cela, n'enlève en rien la culpabilité du père qui a toujours brutalisé et violenté son fils. Le père du chanteur, Marvin Gaye Sr., écope de 6 ans de prison avec sursis après avoir plaidé l'homicide volontaire. Mais dès son arrestation, on lui découvre un cancer. Il ne purgera jamais sa peine. Il est envoyé dans une maison de repos à vie. Il meurt d'une pneumonie à 84 ans, 15 ans après avoir tué son fils. Mort à seulement 44 ans, Marvin Gaye laisse derrière lui un grand héritage musical qui ne cesse d'inspirer les nouvelles générations de musiciens. Son incroyable discographie de près de 16 albums et son charisme fou ont fait de lui une légende de la musique entrée dans l'histoire à tout jamais. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.